c'est verrouillé.
Attention, Marc.
C'est vrai que les portes sont dissimulées dans les boiseries. J'ai l'impression d'un passage secret. Les gens vous écoutent, sont là, autour de la cabine, et vous faites un petit morceau. Et il y a vraiment une sorte de récompense, et c'est aussi un plaisir de savoir que les gens, bah, dehors, peut-être vous écoutent.
C'est pas toujours évident de savoir exactement quel est l'impact sonore dans la ville.
Le son monte jusqu'en haut du beffroi, c'est vraiment un truc à vivre.
Moi, je suis Fabrice Maffre, je suis guide à l'Office du Tourisme, je suis le guide du Beffroi notamment. Je suis arrivé à Douai en 1996. Donc, je suis guide du Beffroi depuis 1996. Donc plus de 15 ans que je monte et que je descends le Beffroi.
Moi, je compte 196 marches. L'escalier en colimaçon, en vis, qui tourne. Ah, le Beffroi, c'est une tour carrée qui est surmontée de 4 tourelles, 4 échauguettes et d'une flèche. C'est un Beffroi qui date du 14e et 15e siècle. Qui n'a jamais été détruit, donc c'est le Beffroi en grande partie d'origine. Un Beffroi qui avait notamment émerveillé Victor Hugo. Victor Hugo a fait une très jolie description du Beffroi. Il avait été enthousiasmé par le Beffroi et le carillon.
On va ouvrir la fenêtre.
Quand on entend les cloches, en général, on ne les voit pas. Et c'est comme rentrer dans un lieu sacré, le Saint des Saints, un petit peu. Remonter les poids de l'horloge régulièrement. Elle fonctionnait avec un système de points qui descendait, qui entraînait les engrenages, mais qu'il fallait remonter très régulièrement. La ville rémunérait d'avoir un horloger. Il y avait un horloger municipal qui entretenait les horloges de la commune. C'était aussi un des rôles du Beffroi d'abriter l'horloge de la ville. Le Beffroi, c'est aussi ce qui donne l'heure. Le Beffroi et le carillon, c'est ce qui rythmait la journée de travail et de repos des habitants. Le carillon sonnait la première heure du jour, l'heure des repas, la fermeture des portes de la ville. Donc il y avait un vrai langage des cloches qui rythmait la journée des habitants. Ah, nous sommes dans la chambre des cloches, au 4e étage du Beffroi. On retrouve ici les 62 cloches du carillon. On est au cœur du carillon. Les 62 cloches sont toutes reliées à l'instrument du carillonneur. On retrouve ici la cabine du carillonneur. Tous les samedis matins, ici, il y a un concert de carillon qui dure 3/4 d'heure, 1 heure. Vous avez à la fois le clavier d'un coup de poing, qu'on frappe avec la tranche du poing, et le pédalier. Le pédalier qui correspond aux basses, aux notes graves, aux grosses cloches. Le pédalier reprend toute la partie grave du clavier, en fait. Mais ça, c'est particulier vraiment au carillon, le fait d'avoir un clavier qu'on frappe avec le poing et un pédalier. Et donc ça va vraiment de la plus aiguë à la plus grave. La plus aiguë, c'est clochinette, elle est ici. À l'octave le plus aigu, hein, oui, c'est celui-ci. C'est l'octave le plus aigu. Alors évidemment, ici, on entend beaucoup le son de la cloche, mais aussi le son de la touche. Et dehors, bien sûr, on n'entend que la cloche, on n'entend pas le son de la touche, hein, du tout. Le son des cloches renvoie beaucoup aussi, évidemment, au monde de l'enfance. On associe souvent le son des cloches au monde de l'enfance. Donc il y a un son là aussi particulier des cloches, un son un peu nostalgique. Bon, ça m'est arrivé de faire un petit morceau ici, puis d'avoir des visiteurs hein, qui très émus se mettent à pleurer parce que ça fait référence à des souvenirs lointains. Quoi. Enfin, souvent le son du carillon, quand on assiste à un concert, souvent on est très ému parce qu'il y a quelque chose vraiment de très émouvant dans le son des cloches. Bon, il y a un aspect aussi un petit peu mystérieux, parce qu'on ne voit pas le carillonneur, donc on a un peu l'impression que la musique se fait comme ça, sans musicien, quoi. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Quoi. Et donc il y a un peu cet aspect mystérieux, cet aspect un peu secret des cloches qui sonnent dans la tour du Beffroi.
J'assimilerai ça maintenant un peu comme les fêtes de Gaillan où ça se fait quasiment de père en fils. C'est assez. Voilà, c'est effectivement les places sont chères. Hein, c'est...
Même la place dans le Beffroi est chère. Hein.
Pourquoi le Père Noël est descendu du Beffroi à Douai? C'est parce qu'en 1966, la toute première fois, j'étais avec un ami guide de montagne. Le dimanche matin, on avait pris l'habitude de grimper par-ci, par-là, sur des murs. Et un dimanche matin, on était sur la Tour des Dames. Et au bout d'un moment, 3-4 mètres d'escalade, on plante un piton d'assurage quand même, pour être certain de notre progression. Quelques minutes plus tard, on voit arriver une voiture de police, parce que les voisins s'étaient émus de ce que deux bizarres étaient sur un mur, pas comme d'habitude. Puis, bon, ben, ils nous intiment l'ordre, évidemment, de descendre de notre mur, ce qu'on fait, bien évidemment. Et puis, ça s'arrête là, bon. Et puis après, ben, en y réfléchissant, on dit, tiens, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Il y a là un beffroi extraordinaire au milieu du centre-ville. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire l'escalade?
Alors là, on est en train de fixer nos cordes sur les poutres du beffroi, en fait. Et bon, donc là, vous pouvez constater par vous-même que la construction est solide. Déjà, de toute façon, c'est là depuis 1380. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va tomber, j'espère. Sinon, c'est pas de chance pour nous.
Il faut avouer que la toute première fois qu'on fait une descente comme ça, et les jeunes qui nous accompagnent maintenant vous le diront aussi, même si on a l'habitude de faire de l'escalade et de la montagne, passer par une fenêtre étroite à 40 mètres du sol, avec la perspective des maisons qui sont en face et cet angle de vue sur la rue de la mairie en bas, c'est très impressionnant.
T'as les tiennes,
la deuxième,
là, il en faut deux,
faut
à chaque fois.
Non,
la deuxième, si. La tienne, oui.
Ça reste un vrai plaisir pour les lutins qui font cette descente parce que, arrivé au bout d'un certain moment de longueur de corde, en se poussant avec les mains et les pieds sur la façade du beffroi, on recule dans le vide et on fait vraiment des sauts de grande légèreté. C'est très beau à voir et c'est très agréable quand on la réalise soi-même.
Donc en fait, nous, on descend tous en même temps. On attend le Père Noël à mi-beffroi. Le Père Noël descend et après on descend tous ensemble. Normalement, c'est comme ça que ça se passe.
Ça, c'est quand les lutins comprennent la consigne.
Ouais.
Non, on n'y voyait aucune attaque personnelle. Bon, c'est toujours, par contre, l'ambiance est toujours comme ça, c'est bon enfant.
On met ça.
Avec ça, avec de quoi descendre et un système de sécurité au cas où. C'est parce que bon, avec ce problème de ce matériel-là, c'est que c'est automatique et qu'on peut facilement se coincer une barbe dans le système qui s'appelle un gris-gris. Expérience déjà vécue. Et donc dans ces cas-là, il faut un deuxième système qui vous permet d'effectuer une manipulation pour vous déverrouiller et débloquer, tout simplement. Ah bah,
oui.
C'est très technique, faut pas avoir peur.
On descendrait sur un mur en béton quelque part, ça n'aurait pas le même cachet. Là, il y a une perspective extraordinaire, ce beffroi est assez haut et plutôt étroit par rapport à la rue qui est étroite également. Les fenêtres par lesquelles les lutins et le Père Noël descendent sont à 40 mètres du sol, le beffroi culminant, lui, à 57 mètres.
Et pendant la descente, la particularité, c'est qu'il faut, il faut s'assurer entre 18h05, 18h10, que la corde ne reste pas derrière l'aiguille. Parce que forcément, au moindre bond, alors on a l'aiguille qui est démolie, au pire, la corde qui est sectionnée. Donc voilà, c'est en fait simplement la corde avait fait un tour du coup autour de l'axe de l'horloge. Donc simplement descendre avec la corde d'à côté et de repasser. La corde de Jérémy qui est sur l'horloge, il faut l'accrocher sur la barrière, Michel. Sinon, on va s'emporter autour de l'horloge. Donc là, on va essayer de délever la corde correctement. Sans que ça fasse de nœud et qu'on mette pas trois quarts d'heure avant de mettre notre corde.
Vous faites comment, hein ?
En fait, la corde est neuve. Là. Donc en fait, il faut la dérouler tout le long pour éviter qu'elle s'entortille, qu'elle ait des nœuds. Et... Donc là, c'est simplement parce que la corde est neuve.
À 18h, juste avant la descente, on entend bien le carillon là, quand on est là-haut, effectivement. Et puis la fanfare en bas qui double ça d'un petit Papa Noël. Et les enfants qui appellent le Père Noël, c'est absolument extraordinaire. Le son monte jusqu'en haut du beffroi. C'est vraiment un truc à vivre.
Le carillon est un instrument populaire. Ici à Douai, les habitants sont attachés à leur carillon. Il fait partie vraiment de l'environnement sonore, hein. Surtout s'ils habitent ici en centre-ville. Et le carillon anime la ville, hein, notamment le samedi matin, qui est un jour de marché. Donc traditionnellement, c'est un jour où les gens en général se promènent, passent dans les rues. Et donc le carillon, traditionnellement, joue à ce moment-là. Alors c'est vrai que le carillon a une fonction différente, hein, d'il y a par exemple 500 ans, où il y avait vraiment aussi un rôle fonctionnel. Les cloches étaient sonnées pour des moments particuliers, pour appeler les fous ou les informer aussi en cas d'incendie ou d'invasion. Alors vraiment le rôle maintenant est plus un rôle effectivement d'animation. Ça crée une identité à la ville. C'est pas toujours évident de savoir exactement quel est l'impact sonore dans la ville. Un carillon qu'on joue régulièrement, on a la possibilité de l'enregistrer, d'avoir des personnes qui écoutent, qui vous renvoient un petit peu le rendu. Mais c'est toujours délicat effectivement d'appréhender de façon précise comment ça rend bas, parce que le carillonneur est très mal placé hein, pour entendre ce qu'il fait exactement, quel est le rendu. Mais avec l'expérience, on arrive effectivement à, en fonction du type de cloche, du type de mécanique, de la hauteur aussi du beffroi, des matériaux qui entourent le carillon, aussi si c'est un carillon qui est dans un endroit calme ou au contraire bruyant, on arrive effectivement à appréhender le résultat sonore, quoi. On est rarement très surpris du résultat, mais c'est l'expérience qui donne ça. Le carillon de Douai a une sonorité vraiment très particulière, qui fait que c'est un carillon qui est connu même à l'étranger. Donc si vous allez aux États-Unis, ils connaissent le carillon de Douai, ils savent comment il sonne. Donc c'est vraiment un carillon qui est important ici dans notre paysage régional et national. Le carillon suscite beaucoup d'émotions à chaque fois que les gens visitent, découvrent l'instrument. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était insensible ou qui restait sans aucune réaction face au carillon. Ça provoque toujours quelque chose, une émotion, et les gens sont souvent surpris, touchés. C'est dans la plupart du temps vraiment une révélation un petit peu, parce qu'on découvre cet instrument qui est peu connu malheureusement. Le métier du carillonneur consiste notamment à ça, essayer d'optimiser un petit peu le son du carillon, donc arranger les pièces, et on fait beaucoup de transcriptions, de chansons populaires effectivement que les gens reconnaissent. Ça crée un lien effectivement avec cet instrument qui est particulier. Ça fait vraiment partie du métier, d'adapter effectivement pour l'instrument.
Dans le cadre de la série radiophonique « Paroles de Beffroi », c'était « Le Beffroi de Douai, un géant de pierre et de son ». Un documentaire qui a reçu le soutien de la FRANF, Fédération des radios associatives du nord de la France.